Chapitre 2.
Réuni à ma famille, je pus enfin goûter à Aix le calme si nécessaire au délabrement de mes forces et à l'état de mon esprit, irrité sans être abattu. Ce n'était pas sans un combat intérieur très pénible que j'avais ainsi plié devant la violence du dominateur. Si je m'étais décidé à fléchir, c'était en capitulant. Mais pour quiconque, sans sa dignité d'homme et n'aspire qu'à vivre sous un gouvernement raisonnable, de pareils sacrifices ne s'obtiennent pas sans effort. Il était pour moi bien d'autres motifs d'amertume et d'alarme dans la marche occulte et accélérée d'un pouvoir qui allait se dévorer lui-même et dont les ressorts m'étaient tellement connus qu'il ne pouvait plus se dérober à la prévoyance de mes calculs. Quoique je dusse me croire condamné pour un assez long terme à rester dans une nullité parfaite et à l'écart, ce rôle qui m'eût conduit à l'apathie et à l'indifférence ne pouvait convenir à un esprit rompu aux habitudes et à l'exercice des grandes affaires. Ce que d'autres ne voyaient pas, je l'apercevais. Des fades et mensongères colonnes du moniteur s'échappaient autant de traits de lumière qui frappaient mes regards. La cause de l'événement du jour m'était dévoilée par l'annonce de son résultat. La vérité pour moi était presque toujours suppléée par l'affectation des réticences et enfin les élucubrations du chef de l'État me décelaient tour à tour les joies et les tourments de son ambition. J'entrevoyais jusqu'aux actions les plus secrètes, jusqu'aux serviles empressements de ses familiers les plus intimes, de ses agents les plus éprouvés. Toutefois, les particularités me manquaient. J'étais trop loin du lieu de la scène. Comment deviner, par exemple, les incidents brusques, les circonstances imprévues qui survenaient lors du cours ordinaire des choses? Presque toujours, on en éprouvait quelque commotion ou quelque orage dans l'intérieur du palais. S'il en transpirait des traits épars, décousus, il n'arrivait guère au fond des provinces qu'altérés ou défigurés par l'ignorance ou la passion. L'habitude invétérée de tout savoir me poursuivait. J'y succombais davantage dans l'ennui d'un exil doux mais monotone. À l'aide d'amis sûrs et de trois émissaires fidèles, je montais ma correspondance secrète, fortifiée par des bulletins réguliers qui, venus de plusieurs côtés différents, pouvaient être contrôlés l'un par l'autre. En un mot, j'eus à Aix ma contre-police. Cet adoucissement, d'abord hebdomadaire, se répéta depuis plus d'une fois par semaine, et je fus tenu au courant d'une manière plus piquante que je ne l'avais été à Paris même. Tels furent les charmes de ma retraite. Là, dans le calme de la réflexion, mes bulletins de Paris venaient aiguillonner mes méditations politiques. Ô vous, courageuse, spirituelle et constante V, vous qui teniez presque tous les fils de ces réseaux d'information et de vérité, vous qui, douée d'une sagacité parfaite, d'une raison supérieure, qui, toujours active, imperturbable, restâtes fidèle dans toutes les crises à la reconnaissance et à l'amitié, recevez ici le tribut d'hommage et de tendresse que mon cœur sent le besoin de vous renouveler jusqu'à mon dernier soupir. Vous n'étiez pas la seule occupée dans l'intérêt de tous à tisser la trame patriotique préparée depuis un an pour la chance probable d'une catastrophe. L'aimable et profonde D, la gracieuse et belle R, secondait votre zèle pur. Vous aviez aussi vos chevaliers du mystère, enrôlés sous la bannière des grâces et des vertus occultes. Il faut le dire, au milieu de la décomposition sociale, soit pendant la terreur, soit sous les deux oppressions, directoriale et impériale, qui avons-nous vu se dévouer avec un rare désintéressement? Quelques femmes, que dis-je, un très grand nombre de femmes, restées généreuses, à l'abri de cette contagion de vénalité et de bassesse qui dégrade l'homme et abâtardit les nations. Hélas, nous arrivions alors, après bien des traverses, aux confins de ce terme fatal où, comme nation, nous pouvions avoir tout à déplorer et tout à craindre. Nous touchions à cet avenir effrayant parce qu'il était prochain où tout pouvait être compromis et remis en question, nos fortunes, notre honneur, notre repos. Nous en avions été redevables, il est vrai, au grand homme, mais cet homme extraordinaire s'obstinait, en dépit de leçons de tous les siècles, à vouloir exercer un pouvoir sans contrepoids et sans contrôle. Dévoré d'une rage de domination et de conquête, parvenu au sommité de la puissance humaine, il ne lui était plus donné de s'arrêter. Grâce à mes correspondances et à mes informations, je le suivais pas à pas dans les actes publics comme dans les actions privées. Si je ne le perdais pas de vue, c'est que toute notre force, toute notre fortune résidait dans sa fortune et dans sa force. Connexion effrayante, sans doute, parce qu'elle mettrait à la merci d'un seul homme non seulement une nation, mais 100 nations différentes. Arrivé à son apogée, Napoléon n'y fit même pas une halte. Ce fut pendant 2 années que je passai en dehors des affaires que le principe de son déclin, d'abord inaperçu, se décela. Aussi dois-je en marquer ici les effets rapides, moins par une vaine curiosité que pour l'utilité de l'histoire. Ce sera d'ailleurs par cette transition toute naturelle que j'arriverai sans lacune à ma réapparition sur la scène du monde et au remaniement des affaires de l'État. L'année 1810, signalée d'abord par le mariage de Napoléon et de Marie-Louise, puis par ma disgrâce, le fut aussi par la disgrâce de Pauline Borghèse, sœur de l'empereur, et par l'abdication de son frère Louis, roi de Hollande. Scrutons ces 2 événements pour mieux nous expliquer l'avenir. Des 3 sœurs de Napoléon, Élisa, Caroline et Pauline, celle-ci, fameuse par ses charmes, fut celle qu'il affectionna le plus, sans toutefois s'en laisser subjuguer. Légère, bizarre, dissolue, sans esprit, mais non pas sans saillie, ni sans quelque lueur, elle aimait le faste, la dissipation et toutes les sortes d'hommages. Jamais elle n'eut pour aucun homme plus d'aversion que pour Leclerc, son premier mari, et plus encore pour le plus doux des hommes, le prince Camille Borghèse, à qui Napoléon la fit épouser en seconde noce. Son premier mariage fut ce qu'on appelle un mariage de garnison. Malade et refusant de suivre Leclerc dans son expédition de Saint-Domingue, elle fut transportée en litière, par ordre de Napoléon, à bord du vaisseau amiral. En proie aux vives ardeurs du climat des tropiques et reléguée dans l'île de la Tortue par suite des revers de l'expédition, elle se plongea pour s'étourdir dans tous les genres de la sensualité. À la mort de Leclerc, elle se hâta de remettre la voile, non comme Artémise ni comme la femme de Britannicus, tout en pleurs et tenant l'urne funéraire de son époux, mais libre, triomphante, venant se replonger dans les délices de la capitale. Là, dévorée longtemps par une maladie dont le siège accuse l'incontinence, Pauline eut recours à tous les trésors d'Esculape et guérit. Chose étrange dans sa cure merveilleuse, c'est que loin d'être flétrie, sa beauté n'en reçut que plus d'éclat et de fraîcheur, telles que ces fleurs singulières que l'engrais fait éclore et rend de plus en plus vivaces. Ne voulant plus que jouir sans frein, sans retenue, mais redoutant son frère et ses brusques sévérités, Pauline forma, de concert avec une de ses femmes, le projet d'assujettir Napoléon à tout l'empire de ses charmes. Elle y mit tant d'art, tant de raffinement, que son triomphe fut complet. Tel fut l'enivrement du dominateur que, plus d'une fois, ses familiers l'entendirent, au sortir de ses ravissements, proclamer sa sœur la belle des belles et la Vénus de notre âge. Ce n'était pourtant qu'une beauté hardie. Mais écartons ces tableaux plus dignes des pinceaux de Suétone et de l'Arétin que du Burin de l'histoire. Voluptueux château de Neuilly, magnifique hôtel du faubourg Saint-Honoré, si vos murs, comme ceux du palais des rois de Babylone, révélaient la vérité, que de scènes licencieuses ne retraceriez-vous pas en gros caractères? Pendant plus d'un an, l'engouement du frère pour la sœur se soutint, quoique sans passion. En effet, aucune autre passion que celle de la domination et des conquêtes ne pouvait maîtriser cette âme hautaine et belliqueuse. Quand, après Wagram et la paix de Vienne, Napoléon revint triomphant dans Paris, précédé par le bruit sourd de son prochain divorce avec Joséphine, il courut le jour même chez sa sœur, inquiète et dans la plus vive attente de son retour. Jamais elle ne montra pour son frère tant d'amour et d'adoration. Je l'entendis le jour même dire, car elle n'ignorait pas qu'il n'y avait pour moi aucun voile, « Pourquoi ne régnons-nous pas en Égypte? Nous ferions comme les Ptolémées, je divorcerai et j'épouserai mon frère. » Je la savais trop ignorante pour avoir fait d'elle-même une telle allusion, et j'y reconnus un élan de son frère. Qu'on juge du dépit amer et concentré de Pauline quand, à quelques mois de là, elle vit Marie-Louise, parée de toute sa candeur, apparaître aux fêtes nuptiales et s'asseoir sur le trône aux côtés de Napoléon. La cour impériale subit une réforme brusque dans ses habitudes, dans ses mœurs, dans son étiquette. La réforme fut complète et rigide. Napoléon en donna l'exemple par le strict maintien des convenances et l'observation de ses devoirs comme époux. Dès ce moment, la cour licencieuse de Pauline fut déserte, et cette femme qui joignait toutes les faiblesses aux grâces de son sexe, regardant Marie-Louise comme son heureuse rivale, en conçut un dépit mortel et nourrit au fond de son cœur le plus vif ressentiment. Sa santé en fut altérée. De l'avis des médecins, elle eut recours aux eaux d'Aix-la-Chapelle, autant pour se rétablir que pour tromper l'ennui qui la dévorait. S'étant mise en route, elle croisa dans Bruxelles avec Napoléon et Marie-Louise, qui se dirigeaient vers la frontière de Hollande. Là, forcée de paraître à la cour de la nouvelle impératrice, et saisissant l'occasion de lui faire une injure grave, elle se permit, en la voyant passer dans un salon, de faire derrière elle, et avec des ricanements indécents, un signe de ses deux doigts que le peuple n'applique dans ses grossières dérisions qu'aux époux crédules et trompés. Napoléon, témoin et choqué d'une telle impertinence que le reflet des classes avait même décelé à Marie-Louise, ne pardonna jamais à sa sœur. Elle reçut le jour même l'ordre de se retirer de la cour. Se refusant désormais à toute soumission, elle préféra vivre dans l'exil et dans la disgrâce jusqu'aux événements de 1814 qui la retrouvèrent toute dévouée au malheur de son frère. La disgrâce de Louis, roi de Hollande, fut plus noble. Jusqu'ici, l'empereur n'avait poursuivi et dépouillé que des souverains de race, comme si par là il eût voulu réellement que la sienne fût bientôt la plus ancienne de l'Europe, ainsi qu'il l'avait dit avec tant d'imprudence. Ne gardant plus de mesure, il va détrôner un roi de sa propre famille, dont lui-même a ceint le front du bandeau royal. On se demandait si c'était pour réduire son frère à la condition de préfet qu'il l'avait proclamé roi de Hollande. Louis, d'un caractère doux et ami de la justice, ne voyait qu'avec amertume la ruine de son royaume par l'effet du système continental destructif de toute industrie et de tout négoce. Il favorisa secrètement le commerce maritime malgré les menaces de son frère qui le traitait de fraudeur. Outré de se voir ainsi désobéi, Napoléon se mit en devoir d'envahir la Hollande, oubliant qu'il avait dit à son frère, en l'appelant au trône et pour vaincre son refus, qu'il valait mieux mourir roi que vivre prince. Louis, ne pouvant empêcher l'occupation de ses États par les soldats et les douaniers de son frère, abdiqua la couronne en faveur de son fils, annonçant par un message au corps législatif de Hollande sa résolution en ces termes. Mon frère, quoique très exaspéré contre moi, ne l'est pas contre mes enfants. Certainement, il ne détruira pas ce qu'il a institué pour eux, il ne leur enlèvera pas leur héritage, puisqu'il ne trouvera jamais l'occasion de se plaindre d'un enfant qui ne gouvernera pas par lui-même. La reine appelée à la régence fera tout ce qui pourra être agréable à l'empereur, mon frère, elle y sera plus heureuse que moi, dont les efforts n'ont jamais réussi. Et qui sait, peut-être suis-je le seul obstacle d'une réconciliation entre la France et la Hollande. Si cela était, oh, je trouverais ma consolation à passer loin des premiers objets de ma plus vive affection le reste d'une vie errante et souffrante. Une telle abdication n'était pas sans dignité. À peine ce message est-il envoyé que Louis quitte en secret la Hollande et se retire dans les États autrichiens à Graz en Styrie, n'ayant plus pour vivre qu'une chétive pension. Sa femme Hortense, plus avide, s'appropria les 2 millions de rentes que Napoléon fit décréter en faveur de son frère dépossédé. Ce premier exemple d'une abdication napoléonienne me frappa et me fit réfléchir. L'avouerai-je? Il me donna l'idée de la possibilité de sauver un jour l'Empire au moyen d'une abdication imposée à celui qui pouvait en compromettre les destinées par son extravagance. On verra plus tard comment cette pensée, concentrée d'abord en moi, fructifia dans d'autres têtes politiques. On pouvait croire que l'abdication de Louis aurait déconcerté Napoléon, mais n'était-il pas entouré d'hommes occupés sans relâche à colorer ses invasions et ses empiétements? Veut-on savoir quelle fut à ce sujet la rhétorique de Champagny, duc de Cadore, son ministre des Relations extérieures, promu successivement aux plus grandes places et que Talleyrand avait si bien jugé en disant que c'était un homme propre à toutes les places la veille du jour qu'on l'y nommait. Ce ministre si avisé commença par établir, dans un replâtrage appelé rapport, que l'abdication du roi de Hollande, n'ayant pu se faire sans le consentement de Napoléon, était nulle par cela même et de nul effet. Il en tira la conséquence merveilleuse, et on s'attendait à ce grand effort de logique, que la Hollande devait être conquise et réunie à l'Empire français, ce qu'un décret impérial décida sans appel. Cet événement eut pour dernier acte une scène caractéristique. Napoléon fit venir le fils de Louis, encore enfant, qu'il avait créé grand-duc de Berg, et lui adressa cette courte allocution. Venez, mon fils, la conduite de votre père afflige mon cœur, sa maladie seule peut l'expliquer. Venez, je serai votre père, vous n'y perdrez rien, mais n'oubliez jamais, dans quelque position que ma politique vous place, que vos premiers devoirs sont envers moi et que tous vos devoirs envers les peuples que je pourrai vous confier ne viennent qu'après. Ainsi fut déchiré le voile d'une ambition si effrénée que Napoléon se plaçait de lui-même au-dessus du roi des rois et de la souveraineté de tous les peuples. À présent, disons quelle fut la vraie cause de l'usurpation de la Hollande. Je puis d'autant plus en parler qu'elle n'est point étrangère à ma disgrâce. Quand le mariage avec une archiduchesse fut résolu, Napoléon eut une velléité de pacification générale que je m'efforçais de changer en volonté ferme et raisonnable. Je savais par mes émissaires que le cabinet de Londres tenait à deux points décisifs, l'indépendance de la Hollande et de la péninsule. Avec Louis, on pouvait compter sur le maintien de la séparation de la Hollande. Quant à la péninsule, Napoléon ne voulait se désister que du Portugal, par la seule raison qu'il ne rencontrait que des obstacles à en consommer la conquête. Je ne désespérais pourtant pas de pouvoir l'amener au dégoût de l'occupation de l'Espagne qui lui coûtait déjà des flots de sang et qui n'était rien moins qu'assurée. Autorisé par lui, je concertai avec son frère Louis, dans le séjour qu'il fit à Paris en 1810, un plan de négociation secrète et particulière avec Londres. Louis écrivit à son ministre des Affaires étrangères que Napoléon était si courroucé contre lui et contre les Anglais à cause de leur commerce furtif avec ces États et qu'il serait impossible d'empêcher qu'il n'effectuât de force la réunion de la Hollande à la France si la paix maritime n'intervenait pas au plus tôt ou du moins si des changements dans le système du blocus et des ordres du Conseil britannique n'avaient pas lieu. Il autorisait son ministre à s'entendre à ce sujet avec ses collègues, mais comme agissant d'eux-mêmes en son absence, et à faire partir pour Londres un agent qui, environné de quelques considérations, put faire des ouvertures de négociation en leur nom particulier. Cet agent devait d'abord exposer au cabinet de Saint-James le désavantage immense qui résulterait pour le commerce et même pour la sûreté à venir avec l'Angleterre si la Hollande, réunie à l'empire de Napoléon, devenait dans ses mains un instrument d'agression. Sans nul doute, il commencerait par la soustraire à toute relation commerciale. Les ministres de Louis choisirent pour agent monsieur Labouchère, banquier d'Amsterdam, qui se rendit à Londres avec des instructions pour entamer de suite avec le marquis de Wellesley une négociation secrète. Il devait surtout insister sur la nécessité d'apporter des changements dans l'exécution des ordres du Conseil du mois de novembre 1807. Mais le marquis de Wellesley refusa d'entrer dans une négociation détournée au sujet de la Hollande, jugeant parfaitement que son indépendance ne pouvait être assurée qu'autant qu'il plairait à Napoléon, jusque-là si peu disposé à reconnaître les droits d'aucune des nations placées sous son influence. Toutefois, voulant sonder les intentions véritables de Napoléon, Il autorisa vers la même époque le commissaire anglais Mackenzie, chargé de continuer à Morlaix la négociation pour l'échange des prisonniers, à ouvrir une négociation pour la paix maritime qu'il couvrirait par la négociation ostensible avec le commissaire français proposé pour l'échange. Le cabinet de Saint-James laissait à Napoléon, par l'organe du commissaire Mackenzie, le choix entre trois manières de traiter, savoir, premièrement, l'état de possession avant les hostilités, deuxièmement, l'état de possession présent, troisièmement, enfin, les compensations réciproques. Mais Napoléon, enivré de sa prospérité, refusa d'entendre aucune de ces manières de traiter, repoussant toute autre paix que celle dont il ne dicterait pas les conditions. Dès ce moment, le marquis de Wellesley ne voulut plus recevoir aucune ouverture de la part du banquier Labouchère, ni même de monsieur Fagan, que je lui avais dressé dans le même but. Le ministère anglais était trop persuadé de l'efficacité de son système de blocus pour accéder à toute modification à cet égard. Tout fut rompu sans retour, et Napoléon, voyant qu'il ne pouvait forcer l'Angleterre à fléchir sous sa volonté, résolu, par esprit de vengeance, d'envahir le royaume de son frère, croyant par là soustraire à jamais la Hollande du commerce anglais. En même temps, il crut ne devoir plus différer la disgrâce de son ministre de la police, qui s'efforçait de le ramener sans cesse à un système d'administration et de politique raisonnable. Il était d'autant plus porté à me sacrifier que ses correspondances privées lui répétaient, en parlant de moi, d'après certains pamphlétaires de Londres, qu'il tremblait devant son ouvrage sans pour cela oser le renverser. Depuis plusieurs mois, il en épiait l'occasion. On a vu combien il avait d'abord été inquiet de ma liaison avec Bernadotte. Ici, le motif d'une disgrâce lui parut encore plus plausible. Il prétendit que, sous prétexte de négocier au sujet de la Hollande, mes agents à Londres ne s'étaient livrés qu'à des intrigues et à des spéculations frauduleuses, voulant par là me rendre responsable de la rupture d'un commencement de négociation qui n'avait échoué que par sa mauvaise foi et sa prépotence. Voilà sur les vrais motifs de l'envahissement de la Hollande et de ma disgrâce des éclaircissements dont je puis garantir l'exactitude. Ce système d'irréconciliation et de violence fut perpétué par un décret impérial portant que toutes les marchandises anglaises qui existaient dans les lieux soumis à la domination de l'empereur ou conquis par ses armes seraient brûlées publiquement. C'était un appendice au décret de Berlin et de Milan, c'est-à-dire qu'on allait faire à Amsterdam et à Livourne ce qu'on avait fait déjà à Berlin, à Francfort, à Mayence et à Paris. Si l'on ne pouvait pas répéter ici, brûler n'est pas répondre, on pouvait dire brûler n'est pas gouverner. Telles étaient les conséquences du système continental qui, selon des conseillers niais et lâches, devait finir par mettre l'Angleterre hors de combat et par livrer le monde à Napoléon. Et cette conception incendiaire, qui devint chez lui une idée fixe, n'était qu'une tradition politique dont il avait hérité du gouvernement directorial à qui les publicistes des clubs et des gazettes avaient persuadé que le seul moyen de réduire l'Angleterre était de lui fermer les ports du continent. Mais d'abord il fallait subjuguer tout le continent européen, dont Napoléon n'avait encore que le tiers. Le reste languissait sous le giron des rois, ses alliés, ses amis et ses tributaires. Quel esprit régnait dans les notes que leur adressait coup sur coup le ministre Champagny-Cador pour leur persuader de fermer leurs ports à tous les navires français? Qu'il n'y avait plus de neutre pour les États de l'Europe, qu'ils ne feraient plus par eux-mêmes aucun commerce actif ni passif, et que la France seule, par voie des licences négociées à Londres, les approvisionnerait des denrées qu'il leur était indispensable d'en recevoir. Tel était ce fameux système continental qui tendait à anéantir le commerce du monde et qui, par cela même, était impraticable. Or, il avait bien fallu le modifier, ou plutôt le terminer, par le système des licences d'invention anglaise. Aussi vit-on, à compter de la fin de 1810, Napoléon étendre lui-même ce système en accordant à prix d'argent la permission d'introduire en France une certaine quantité de denrées coloniales. Mais c'était à condition d'en exporter la valeur en marchandises de fabrique française qu'on jetait le plus souvent à la mer à cause des difficultés suscitées par les douaniers anglais. Et qui s'engraissait le plus à ce monopole inouï? Certes, ce n'étaient ni les spéculateurs subalternes, ni les commissionnaires tarifés du plus grand spéculateur en chef, réduit à peine à un modique droit de commission. Quant à l'empereur, son bénéfice était clair et net. Chaque jour, il voyait grossir, avec une jubilation dont il ne cachait plus les excès, l'énorme trésor enfoui dans les caves du pavillon Marsan. Elles en étaient encombrées. Déjà, ce trésor s'élevait à près de 500 millions en espèces. C'était un résidu des 2 milliards de numéraires entrés en France par l'effet de la conquête. Ainsi, la passion de l'or l'eût peut-être emporté un jour sur celle des combats dans le cœur de Napoléon, si l'inexorable Némésis l'y eût laissé vieillir. Si l'on veut avoir une idée de l'accumulation de richesses inhérentes au développement de la puissance de cet homme, qu'on ajoute au trésor que les caveaux des Tuileries recélaient, 40 millions de mobilier et 4 à 5 millions de vaisselle renfermées dans les résidences impériales, 500 millions distribués à l'armée à titre de dotation, enfin le domaine extraordinaire s'élevant à plus de 700 millions et qui, de sa nature, n'avait point de borne puisqu'il se composait des biens que l'empereur, exerçant le droit de paix et de guerre, acquérait par des conquêtes et des traités. Rien ne pouvait lui échapper avec un texte aussi indéfini. Déjà, le fonds de ce domaine extraordinaire était formé de provinces entières, d'États dont le sort était indécis, et du produit des confiscations dans tout l'Empire. Nul doute qu'il n'eût fini par absorber tous les revenus et tout le domaine public qui aurait échappé aux deux autres créations de domaines impériaux et de domaines privés. Mettre toute la France en fief et l'attacher à son domaine par des redevances annuelles était aussi une des idées favorites de Napoléon. Quel régime magnifique de spoliation martiale d'une part, de dons et de prodigalité de l'autre. Où allait-il nous conduire? À verser tout notre sang pour mettre en dotation le monde entier. Et encore, il n'y avait guère espoir de rassasier la voracité des favoris et des familiers d'un conquérant insatiable. De pareilles supputations sorties de ma plume et les réflexions qui les accompagnent feront sourire ou rechigner certains lecteurs. Et quoi, diront-ils, ce ministre si chagrin parce qu'il fut disgracié, a-t-il donc été si étranger à l'abus des distributions lucratives contre lesquelles il se récrie, peut-être pour la seule raison que la source en est tarie? N'a-t-il pas été comblé aussi d'honneurs et de richesses? Et qui vous dit le contraire? Quoi? Parce qu'on aurait eu part aux avantages individuels d'un système outreux, pernicieux, insoutenable, faudrait-il cesser d'être vrai quand on a promis de tout dire? Le temps des réticences est passé. Il s'agit d'ailleurs ici d'assigner les causes de la chute du plus grand empire qui ait désolé et orné l'univers. On va voir comment, dans un très court délai, Napoléon se précipita volontairement au-delà des bornes de la modération et de la prudence. Par une conséquence de l'usurpation de la Hollande, il déclara, dans un message adressé au Sénat, que des nouvelles garanties lui étaient devenues nécessaires et que celles qui lui avaient paru les plus urgentes étaient la réunion de l'embouchure de l'Escaut, de la Meuse, du Rhin, de l'Ems, du Weser et de l'Elbe et de l'établissement d'une navigation intérieure de la Baltique. De là, un senatus consulte portant que la Hollande, une partie considérable de l'Allemagne septentrionale, les villes libres de Hambourg, de Brême et de Lübeck feraient partie intégrante de l'Empire français et formeraient 10 nouveaux départements. C'est ainsi que Napoléon, sans songer à l'affermissement de ce qu'il avait acquis, se tourmentait pour acquérir encore. Cette violente réunion s'exécuta sans aucun motif de droit, même apparent, sans négociation préalable avec un cabinet quelconque, et sous le prétexte futile qu'elle était commandée par la guerre contre l'Angleterre. Par là, Napoléon anéantit même ses propres créations. les États de la Confédération du Rhin, le Royaume de Westphalie, ni aucun autre territoire ne fut exempt de fournir sa quote-part à ce nouveau partage du Lion. Mais il venait de se donner une nouvelle ligne de frontière qui enlevait aux provinces du sud et du centre de l'Allemagne toute communication avec la mer du Nord qui passait l'Elbe, séparait le Danemark de l'Allemagne, se fixait même sur la Baltique et paraissait tendre à rejoindre la ligne des forteresses prussiennes sur l'Oder que nous occupions en dépit des traités. On sent bien que par lui-même ce devait être un acte assez inquiétant pour les puissances voisines que celui qui établissait ainsi sur les côtes de l'Allemagne une nouvelle domination française par un simple décret, par un senatus consult imposé à un sénat servile. Je jugeai aussitôt que le traité de Tilsit, qui avait eu pour principal objet la délimitation des deux empires, était par là même anéanti et que, se trouvant en point de contact, la France et la Russie n'allaient pas tarder à s'entre-déchirer.